donner peut-être la parole un peu à Annie, je ne sais pas, par rapport à ce qui a été dit.
Moi, j'ai préparé quelque chose quand même, parce que je me suis dit que comme il fallait que je fasse un petit peu état de mes réflexions au bout de cette aventure avec vous, là, en fait, l'idée quand même qui se dégage en vous écoutant toutes les deux, c'est... Je suis contente d'ailleurs, parce que je ne suis pas la seule à être fâchée, donc... ça me fait vachement bien d'entendre des, voilà, ces propos-là, ça me conforte. Et sauf que, bon, jusqu'à présent, je n'avais jamais travaillé avec des personnes, effectivement, qui travaillent dans le théâtre. J'ai travaillé avec des écrivains, j'ai travaillé avec des bibliothécaires qui sont, je dirais, sur la ligne de feu. Vous voyez, les bibliothécaires. Les écrivains sont protégés par leurs éditeurs. C'est important pour eux, d'ailleurs. Et je trouve que c'est normal de la part des éditeurs. Les écrivains ne vont jamais au feu. Sauf que j'en ai vu quand même très mis à mal par des critiques destructrices, absolument destructrices, qui sont du coup pas des critiques, comme tu disais tout à l'heure, mais qui sont des entreprises de destruction, hein, de la mauvaise humeur, et puis aussi de la mauvaise foi, et puis des attaques liées aux préjugés, etc. Mais bon, dans la mesure du possible, quand même, les écrivains sont protégés. Non, c'est les bibliothécaires surtout, et puis des profs aussi, alors les profs de français, par exemple, profs de littérature, et qui sont exposés aussi, alors par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les enfants, les parents, et qu'est-ce qu'on donne à lire aux enfants, voilà. Donc moi j'ai travaillé là-dessus, et la dernière fois, et bon, comme ça fait déjà maintenant une bonne quinzaine d'années, et que ça commence à m'énerver aussi sérieusement, je me suis dit, bon, on va arrêter d'être dans l'analyse avec des gens qui de toute façon n'analysent pas, ils lisent pas, ils sont contre, ils choisissent, ils estiment qu'ils ont raison, qu'ils sont dans leur droit, bref, j'ai appelé ça la censure totalitaire, morale et totalitaire, parce que on parle censure, autocensure, mais c'est vrai que c'est important le découpage, je trouve que c'est très intéressant le découpage que vous avez fait tout à l'heure sur les types d'autocensure, là. Et que effectivement, j'y souscris en littérature aussi, cette autocensure de complaisance là, elle est redoutable et efficace, elle fonctionne. Là, moi, ce qui m'a vraiment occupée depuis 15 ans, c'est pas l'autocensure, hein, c'est la censure qui vient de l'extérieur dire ça c'est mal, et en faisant ça, et là je m'adresse aux gens qui s'occupent des adolescents. Et en faisant ça, vous faites du mal à nos enfants. Voilà. Bon, donc on soit bien clair, c'est là-dessus. Et c'est là-dessus qu'il faut se fâcher, en fait. Parce que la dernière intervention que j'ai faite auprès d'un public de bibliothécaires, c'était à Saint-Paul-Trois-Château, donc, pas loin d'ici. Et voilà, je me suis dit qu'en relisant ce matin, justement, ce texte, enfin la fin du texte, où j'ai traité de la perversion et de la paranoïa, puisque c'est mon boulot, pour expliquer probablement les fondements d'une censure totalitaire. Paranoïa, perversion. Je m'explique. Parce que je m'explique, j'ai choisi ces deux catégories pathologiques, là, j'insiste, hein, pathologiques, gravement pathologiques, dangereuses, surtout à l'échelle politique d'un pays, hein, quand c'est exprimé comme ça, quand ça vise toujours les arts. Toujours les arts sont visés. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la belle fonction que vous avez décrite, là, elle est subversive, elle est nécessaire, mais elle empêche quand même certains de tourner en rond. Hein, et des prises de pouvoir faciles, autoritaires, et elle s'empêche ça. Donc c'est presque normal que ça soit visé. Donc voilà la petite formule. J'ai joué sur le fantasme. C'est-à-dire j'ai imaginé quel pouvait être le fantasme inconscient d'un censeur totalitaire, dont j'ai ouvert les guillemets, c'est pas moi qui... Alors je vais dire « je », mais c'est pas moi qui pense, hein. Je l'ai imaginé. Donc vous avez bien noté, c'est pas moi qui parle, hein.
C'est enregistré.
Oui, c'est ça que je pense. Donc voilà, si rien ne change, je suis immortel. Donc les enfants, vecteurs de changement et d'évolution d'une société, ne doivent rien savoir que je ne sache moi-même. Les livres ne doivent rien dire de plus que le monde que je connais. Ils ne doivent en aucun cas introduire du nouveau, introduire des surprises, et encore moins dévoiler des secrets honteux. Fermez les guillemets. Donc ce jeu, c'est voilà, c'est ça le fantasme du censeur totalitaire. Voilà. Dont le but, clairement affiché et dit le plus souvent, c'est de détruire les œuvres destinées à la jeunesse. Et particulièrement, quand je dis la jeunesse, qui est vraiment dans le feu des projecteurs, là, c'est tout ce qui est destiné aux adolescents à partir de 15 ans, voilà, même avant, hein, 13, 14, 15. Voilà, là où le creuset identitaire, hein, quand même, c'est pour ça que les adolescents sont un enjeu politique dans un pays. Hein. Et ces œuvres qui sont visées sous une forme romanesque, théâtrale, cinématographique, eh bien, en fait, elles parlent de violence psychologique, de la difficulté de vivre globalement, de la singularité aussi, de la tragédie humaine, c'est-à-dire toutes les choses importantes que les adolescents revendiquent de savoir parce qu'ils ont besoin de se nourrir avant, eux aussi, de s'emparer, de s'émanciper. C'est important qu'ils sachent. Si on veut qu'à 18 ans, parce qu'ils quittent le giron familial et de l'école et de la maison parentale, eh bien, à ce moment-là, on les veut instruits, intelligemment instruits, sachant que effectivement, ils vont devoir, s'ils veulent voir triompher les valeurs importantes à leurs yeux, et ils le sont, ils sont très moraux, les adolescents, ils ont une exigence de justice,
ils sont généreux et justes. Oui.
Bien sûr, c'est rares sont ceux qui le soulignent. On dit toujours les ados, ils font n'importe quoi, etc. Ils transgressent, ils sont tout le temps contre. Et oui, ils le sont, mais pour de bonnes raisons, souvent. Ils ont un idéal de justice, de fraternité, de liberté, voilà. Et puis, c'est très compliqué d'y renoncer. Mais bon, ils vont y renoncer un petit peu, mais on ne leur souhaite pas complètement. Et il n'y a que les arts qui vont leur permettre, justement, de satisfaire, quand même, d'aboutir. Il n'y a que l'art. Alors, cette stratégie perverse, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, elle renverse les valeurs. Et elle transforme le bien en mal. C'est ça, un pervertéré, hop, je te retourne le tapis. C'est comme ça que ça marche dans toutes les perversions. Là, je transpose ce que je sais en psychopathologie clinique, qui est mon boulot, je le transpose à l'échelle d'un processus social, politique, économique. Pervertéré, je te renverse le truc, et je fais de toi, qui veux le bien, je te dis que toi, tu veux le mal. C'est-à-dire que toi, tu es mauvais, en fait. Toi qui te crois bon, tu es mauvais. Donc, en fait, il y a un renversement des valeurs, et ce qui motive ça, c'est que l'imagination, forcément, est une ennemie jurée. L'imagination, qui est donc au service quand même de toute création artistique, hein, devient l'ennemi juré parce que le censeur totalitaire, je dis le censeur totalitaire, je ne vais pas le nommer, il y en a plein, il y en a des plus ou moins dangereux, etc. Vous les reconnaîtrez quand vous les rencontrerez, de toute façon, se considère comme étant seul et unique garant des valeurs morales, culturelles, politiques de la place où il est. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, tout ce qui fonde l'existence humaine dans sa diversité, sa complexité, son obsolescence, est rejeté systématiquement. Parce que en fait, il y voit une menace justement contre la pérennité de ses convictions folles. Folie, paranoïa. Il est mortel, vous imaginez. Les censeurs, donc, qui sont moralisants comme ça, ne font que projeter sur les créations artistiques, pour la jeunesse, pour l'adolescence en particulier, pas que ça, mais là-dessus, ils sont très féroces. Hein. Les idées qu'ils redoutent, en fait, de trouver en eux-mêmes. On ne se leurre pas, hein, c'est pas des anges. Hein. Et ces idées-là, ce qui est tragique, c'est qu'effectivement, en général, si on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'elles sont, ce sont des idées qu'ils redoutent parce qu'elles sont tenues au secret depuis très longtemps et qu'elles sont liées à la honte. Et je ne vais pas donner d'exemple, mais il y en a quand même quelques-uns que j'ai en tête. Et je vais juste vous citer une petite liste comme ça de thèmes que vous retrouverez tout le temps, qui sont le corps, la sexualité, la nudité, la sensualité, ça, le premier, la violence, les guerres, la torture, les meurtres, le viol, la maltraitance, l'abus des plus faibles, la pédophilie, etc., l'inceste. Voilà. Alors ça, quand je le dis, je vous assure, ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que c'est vrai qu'on peut aborder toutes ces questions-là sous un angle théâtral, littéraire, cinématographique, toujours dans le prisme d'une œuvre d'art. C'est dans le but, effectivement, de restaurer le symbolique pour réparer quelque chose qui vient de nous, qui est humain, qui détruit, Mais moi, je peux affirmer que c'est d'autant plus important qu'il y ait ce prisme artistique-là, parce que moi, ce dont je parle là, ces mots-là que je viens de prononcer, c'est pas imaginaire. Hein. C'est-à-dire que moi, dans mon boulot, c'est des gens qui ont subi dans leur réel, dans leur corps, dans leur chair, dans leur esprit, qui ont subi tout ça. Vous voyez ? Et par exemple, quand une femme vient en consultation, elle a 65 ans, elle est mère, elle est grand-mère, et elle vient me raconter, en fait, en une heure, j'apprends qu'en fait, elle me parle de 4 générations de femmes violées, dont elle. 4 générations de femmes violées. Et qu'elle me dit, et je lui demande, c'est la première fois que vous demandez de l'aide, elle me dit, oui, mais c'est pas pour moi, c'est parce que là, c'est ma petite fille qui a été violée, vous comprenez ? C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle, parce que peut-être c'est à cause de moi, parce que j'ai pas dit, etc. Elle a déjà pas dit quand sa fille aussi a été violée, etc. Enfin, vous voyez le truc, quoi. C'est des viols incestueux. Hein. C'est à chaque fois, à chaque génération, un homme de la famille, ça peut être un oncle, ça peut être un père, un grand-père, viole une enfant de la famille. Voilà. Et à 4 générations de viols. Et du coup, quand je lis, par exemple, après, quand je vois dans la presse, une presse, on va pas la décrire, vraiment, un article immonde qui dénonce l'horreur qui vient d'arriver dans le monde littéraire, qui est le roman de Antoine Dole, « Je reviens de mourir », quand je lis ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, là ? C'est Antoine Dole, le violeur ? Parce que le bouquin d'Antoine Dole, c'est un bouquin pour ados, et il est question effectivement d'une trajectoire absolument destructrice, et qui se termine mal d'ailleurs, mais d'une jeune fille, et qu'on comprend à rebours dans la construction littéraire du roman, on comprend à rebours, et à demi-mot, parce que c'est suggéré quand même, mais ça fait quand même un choc, que cette jeune fille, en fait, dont on suit plus ou moins dans l'histoire le parcours chaotique et malheureux, et bien qu'en fait, initialement, effectivement, elle est victime d'inceste, vous voyez. Bon ben, finalement, qui on va clouer au pilori ? On va clouer l'artiste, l'écrivain au pilori, mais on va pas, on s'en fout, on veut pas savoir que autour de chez nous, il y a des gens à qui ça arrive, quoi. On veut pas savoir ça. On est d'une lâcheté considérable avec les artistes qui disent ces choses-là. Et les psys qui les écoutent, mais bon, nous, on n'a pas le droit de parler, hein, on est tenus au secret. C'est important pour que les choses, d'ailleurs, soient thérapeutiques, hein, je rappelle ça. Donc c'est pour ça que des fois, je m'énerve quand même un peu. Mais voilà, donc le censeur paranoïaque utilise des moyens pervers en prenant virtuellement les enfants en otage. Alors j'utilise bien le mot à dessein, hein, c'est une prise d'otage, pour garantir son immortalité. Parce qu'en fait, il a la prétention de mener un combat vertueux. J'imagine que vous entendez ça, c'est toujours pour la bonne cause, c'est pour protéger. Voilà, c'est vilain de montrer, de faire lire des trucs comme ça, ou de montrer des spectacles pareils aux enfants, ça va les abîmer, vous comprenez. Donc ils sont, en plus, sont malins, c'est ça la perversion. Ils sont malins, parce qu'ils se montrent comme étant, voilà, agissant pour la bonne cause, parce que qui ira dire le contraire? Mais non, enfin, que c'est pas bien de protéger les enfants, par exemple. Personne n'oserait, personne de normalement constitué n'ira dire ça. Il n'y a que le psychopathe moyen qui peut dire un truc comme ça. Donc voilà, comme nous sommes entre gens de bonne compagnie, aucun de nous dira non, il ne faut pas protéger les enfants. Donc vous voyez comment déjà vous avez perdu la bataille là, parce que quelqu'un est en train de vous dire que ce que vous faites fait du mal aux enfants. Donc c'est vraiment le truc pervers, il est là. Parce que personne n'osera donc dire non, c'est pas un bon combat. Alors ils accusent les changements culturels, etc. Voilà, ils génèrent de la culpabilité. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Coucou. La culpabilité, la peur, la honte et cette forme d'autocensure que peut-être là vous n'avez pas mentionné et que je me permets d'introduire ici, cette forme d'autocensure qui est absolument épouvantable, destructrice justement pour le travail créateur de l'artiste, qui quand il se met, quand cette bête immonde qui rampe autour de lui se met à infiltrer son esprit, quoi. Et les écrivains avec qui j'en ai parlé, ils sont rares ceux qui arrivent à lutter, d'une pichenette par exemple, dire « Allez, barre-toi, c'est pas mon... » je vais pas me laisser impressionner quand même. Il y en a quand même qui en sont dans la souffrance aussi à se dire Voilà, est-ce que je fais pas du mal là? Est-ce que c'est bien de dire ça? Est-ce que j'ai le droit? Vous voyez, c'est des gens moraux. Les gens dont je parle, c'est des gens moraux.